Une vie, une œuvre. Bonjour à toutes et à tous. Philip K. Dick, 1928-1982. Une vie, une œuvre vous embarque aujourd'hui dans un trip labyrinthique et halluciné dans les pas de Philip K. Dick, l'enfant perturbé devenu pape de la science-fiction. Appareillé donc de Chicago à Hollywood, dans les brumes électriques chargées aux amphétamines, à la découverte de la vie et de l'œuvre visionnaire et paranoïaque, peuplée de femmes, d'extraterrestres, de réplicants et du révérend Pike, de cet insatiable barjot accro à la vérité et à la substance mort. Philip K. Dick, de la mystification à la psychose, des réalités malmenées, un documentaire d'Alexandrine Allais et Isabelle Huel.
L'un était et en même temps n'était pas, et désirait séparer ce qui n'était pas de ce qui était. Le jumeau né à terme franchit normalement les stades de son développement alors que le prématuré languissait. Ainsi, il générait un sac diploïde qui contenait tel une coquille d'œuf, deux jumeaux, chacun androgyne se tournant dans des directions opposées. Le projet de l'un était que les jumeaux accèdent l'un et l'autre à l'être simultanément. Cependant, le jumeau qui tournait vers la gauche creva le sac et se sépara prématurément.
Si je peux évoquer un souvenir personnel, enfin celui de l'unique fois où j'ai rencontré Philip K. Dick, après avoir rappelé tout de même qu'il est né en 1928, juste à la veille d'une crise qui a passablement secoué le monde et que ça a peut-être joué aussi un rôle dans son évolution. Donc si j'ai pu rappeler un souvenir personnel, c'est le suivant. C'était à Metz, je crois que c'était en 1977, je crois que c'est plus ancien, mais donc c'était en 1977, et Philip K. Dick avait fait une conférence absolument célèbre, christique, inspirée, où il était apparu avec une grande croix pendant au bout d'une longue chaîne et ballottant sur la poitrine, où il devait en principe s'en tenir à un texte rédigé qu'il avait donné d'ailleurs à Marcel Taon, pour que Taon puisse en préparer la traduction. Et puis le lendemain, il a raconté tout à fait autre chose. Enfin, le malheureux Taon a eu beaucoup de mal à assurer une traduction simultanée. Alors les lecteurs de Dick, les admirateurs de Dick qui étaient entassés dans la grande salle de l'hôtel de ville de Metz étaient de plus en plus surpris de l'entendre parler du retour du Christ sur Terre plutôt que de ses œuvres de science-fiction. Et l'anecdote personnelle, c'est que le lendemain matin, j'ai pris le petit déjeuner avec Philip K. Dick et avec un maximum de précautions, je ne me souviens plus exactement de ce que j'ai dit, mais je lui ai demandé si vraiment il adhérait totalement et sans réserve à tout ce qu'il avait dit la veille. Et il ne m'a jamais répondu, mais il a eu un énorme sourire.
In being in touch with the spirits themselves, difficult. There's a transcendental mystery. Who are the spirits? What are they? What do they consist of? They're plural. The Elohim in Hebrew.
Une vie, une œuvre. Philip K. Dick.
They could be.
Par Alexandrine Allier.
There are ancestors.
Lors de mon séjour en France, j'ai fait une expérience intéressante. J'ai connu ce qu'était la célébrité. Dans ce pays, je suis l'auteur de SF le plus aimé, le meilleur de tous. Je vous le dis pour ce que ça vaut. J'étais l'invité d'honneur du Festival de Metz, auquel je me suis déjà référé, et j'ai prononcé une conférence qui, chose qui m'est typique, n'avait pas le moindre sens. Même les Français ne purent la comprendre, en dépit d'une traduction. Lorsque j'écris le texte d'une conférence, quelque chose se détraque dans mon cerveau. Je dois m'imaginer que je suis une réincarnation de Zoroastre et que j'apporte des nouvelles de Dieu. C'est la raison pour laquelle je m'efforce de faire le moins de conférences possible. On peut me contacter, me proposer d'importantes sommes d'argent pour en faire une. Je trouverai un prétexte vaseux pour me défiler. Je répondrai n'importe quoi, un mensonge flagrant. Mais le fait de me trouver en France et de voir tous mes livres dans des éditions magnifiques et coûteuses, et non en petit format de poche avec ses couvertures dont Spinrad dit qu'elle vous arrache les yeux, ce fut fantastique, dans le sens de l'irréalité. Ce fut la plus belle semaine de ma vie. Je pense que là-bas, à Metz, je fus réellement heureux pour la première fois de ma vie. non parce que j'y étais célèbre, mais parce que toutes les personnes présentes étaient tellement excitées. Les Français sont saisis de frénésie lorsqu'il s'agit de commander un repas. C'est comme les vieilles discussions politiques que nous avions à Berkeley. Sauf que seule la nourriture est en question. Le choix d'une rue pour se rendre d'un point à un autre implique l'attroupement de 10 Français qui crient et gesticulent, avant de s'égayer dans des directions différentes. Les Français, tout comme Spinrad et moi-même, envisagent les possibilités les plus improbables dans chaque situation. Ce qui explique sans doute ma popularité dans leur pays. Prenez un certain nombre de probabilités et les Français, tout comme moi, choisiront la plus insensée. Je me trouvais donc enfin chez moi. Je pouvais devenir hystérique au sein de personnes que l'acculturation avait habituées à l'hystérie. Des gens incapables de prendre des décisions ou de passer aux actes en raison du drame engendré par tout choix. C'est ce que je suis, paralysé par l'imagination. Sur ma voiture, un pneu crevé est pour moi A, la fin du monde, et B, l'œuvre de monstre, bien que j'ai oublié pourquoi. C'est la raison pour laquelle j'aime la SF. J'aime en lire, j'aime en écrire. L'auteur de SF ne recherche pas simplement les possibilités, mais les possibilités les plus folles. Ce n'est pas un simple « et si », mais un « mon Dieu, et si », frénétique et hystérique. Les Martiens sont toujours en train de débarquer.
Philippe Kindred Dick est né le 16 décembre 1928 à Chicago, de Joseph Edgar Dick et Dorothy Kindred, le nom de jeune fille de sa mère devenant son second prénom, situation que plus tard, lorsqu'il sera écrivain, il manipulera avec délices, jouant avec les noms de ses personnages pour en déstabiliser l'identité. Cette naissance va être rapidement suivie d'un drame familial, puisque moins d'un mois plus tard, la sœur jumelle de Dick décède dans d'obscures conditions. Cette jumelle morte va hanter l'œuvre de Philippe K. Dick sous la forme de personnages très différents, depuis les semi-vivants de son roman Ubique jusqu'aux jumeaux internes de la fillette du roman Dr. Blood Money. Dick, cependant, aura toujours du mal à se situer par rapport à ce fantôme romanesque dont les personnages subissent le vampirisme ou, au contraire, l'aide inespérée. Rapidement, les parents de Dick se séparent, Dorothy partant avec son fils de 4 ans. Ultérieurement, Dick décrivit sa mère comme une créature froide, cruelle, hypochondriaque, incapable de s'intéresser à autre chose qu'à l'argent. Pourtant, elle aura une influence déterminante, bien qu'involontaire, sur les rapports futurs que Dick écrivain entretiendra avec la réalité. En effet, l'activité professionnelle de Dorothy consistait à réécrire les discours officiels des hommes politiques afin de les rendre plus conformes à ce qui devait être considéré comme étant la réalité. On comprend que cette mère maîtresse de l'illusion et de la réalité ait pu susciter chez son fils quelques interrogations. Après une enfance à l'éducation austère, en plein traumatisme de la Seconde Guerre mondiale, Dick s'orientera dans un premier temps vers des études de philosophie à l'université de Berkeley.
Quand je revois ces histoires écrites pour les plus anciennes il y a plus de 25 ans, une image me revient à l'esprit, celle du magasin pour chiens Lucky Dog Pet Store. Il existe à cela une excellente raison. Je veux parler d'un élément qui n'est pas seulement propre à ma vie, mais que partagent la plupart des écrivains qui veulent vivre de leur plume. Cela s'appelle le dénuement. À présent, j'en ris et j'éprouve même une certaine nostalgie pour cette époque, car dans de nombreux domaines, ce fut pour moi la plus belle période de ma vie, surtout au début des années 50, au commencement de ma carrière d'écrivain. Mais nous étions pauvres. En fait, nous, ma femme Cléo et moi, étions même de pauvres pauvres. Nous n'en tirions pas la moindre satisfaction. La pauvreté ne forge pas le caractère, c'est un mythe. Cependant, elle a l'avantage de former d'excellents comptables. Il faut compter et recompter soigneusement son argent, très peu d'argent. Avant de sortir de chez soi pour se rendre chez l'épicier, il est indispensable de savoir avec précision quelle somme on pourra dépenser et quels achats on effectuera. Car le moindre écart fera du lendemain un jour de jeûne, de même peut-être que le surlendemain. Quoi qu'il en soit, je me retrouve donc dans les années 50 au Lucky Dog Pet Store de San Pablo Avenue, à Berkeley, Californie. en train d'acheter une livre de viande de cheval hachée. La raison pour laquelle je suis un écrivain indépendant qui vit dans le dénuement est, et j'avoue ceci pour la première fois, que je suis terrifié par les images de l'autorité telles que les patrons, les flics et les professeurs. Je veux être écrivain indépendant pour pouvoir être mon propre patron. C'est une démarche logique. J'ai démissionné de mon emploi de responsable d'un rayon de disques dans un magasin de musique. Et chaque nuit, pendant toute la nuit, j'écris des nouvelles, aussi bien de SF que de littérature générale, tout en ne vendant que celles de SF.
L'un était et en même temps n'était pas, et désirait séparer ce qui n'était pas de ce qui était. Le jumeau né à terme franchit normalement les stades de son développement alors que le prématuré languissait. Ainsi, il générait un sac diploïde qui contenait à l'une coquille d'œuf deux jumeaux, chacun androgyne se tournant dans des directions opposées. Le projet de l'un était que les jumeaux accèdent l'un et l'autre à l'être simultanément. Cependant, le jumeau qui tournait vers la couche...
Son premier roman va arriver, ce sera un roman très classique, ce sera le Trisolaire.
Alors, il va commencer à écrire de la science-fiction au milieu des années 50, ou enfin au début des années 50, j'ai plus les dates exactes en mémoire, mais ça doit tourner autour de 53 ou 54, je crois. Et il va publier dans une collection toute nouvelle, créée par Donald Wallheim, qui s'appelait les S Novels, et puis les S Double Novels, parce que deux romans y étaient présentés en tête bêche. Et Solar Le Tri est un livre relativement achevé. Les livres qui vont suivre le sont beaucoup moins. Ils sont toujours intéressants parce qu'ils font référence à... Ils décrivent un univers très personnel. Mais ce sont des livres qu'il écrit en 15 jours pour faire bouillir la marmite, pour vivre. Lui-même avait un certain mépris pour cette période de son œuvre. Il était très attaché à des livres plus tardifs, mais ceux-là, il l'a dit plusieurs fois qu'il aurait... aimer pouvoir tous les racheter pour les détruire.
Alors sa création littéraire va fonctionner par vagues successives qui vont être rythmées, si je puis dire, par ses histoires d'amour et surtout ses mésaventures conjugales.
C'est une série de mésaventures, en effet. Je crois que c'est une série de malentendus. J'ai le sentiment, bien qu'il soit toujours difficile de porter un jugement, que Dick était un homme difficile à vivre.
En tout, Dick aura été marié 5 fois, et chaque mariage se terminera dans de pénibles conditions pour lui. Le plus souvent, il se retrouvera seul après le départ de femme et enfant, situation que l'on retrouve dans nombre de ses ouvrages. Les variations de sa vie amoureuse entraînent l'ambiguïté de ses personnages féminins, puisque selon l'ouvrage abordé, le lecteur se voit confronté soit à des femmes destructrices mais intelligentes, soit à un simulacre de femme idéale selon Dick, osmose entre la chanteuse Linda Ronstadt et sa petite amie du moment. La période la plus extrême de sa vie conjugale fut peut-être celle qu'il vécut avec Anne Dick, période de grandes contradictions dont nous parle Jeff Wagner, un de ses biographes.
Il les a appelés un jour et a demandé à Anne si elle voulait se mettre ensemble avec lui encore, et puis on sera une famille encore. Alors, comme d'habitude, il change d'avis en à peu près 10 minutes. Bon, elle a pris la voiture et est descendue avec Laura pour aller à Berkeley. Quand elle arrive à la maison, elle trouve la porte entrouverte. Elle rentre et voilà Dick qui est en train de viser un pistolet sur elle. Un pistolet d'ailleurs qui était chargé, terrifié, disant « Sors de ma vie, laisse-moi seul, je veux plus te voir », etc., etc. Donc ça a beaucoup impressionné Anne quand même. Je crois qu'elle a vraiment pas compris. C'était vraiment dans une très très mauvaise période de dépression. C'était après le truc de Palmer Eldritch. Il buvait beaucoup de whisky dans les années 60 comme ça. Il faisait du itching, il était un peu parti. Hein.
Si vous dites à votre femme « Chérie, je ne suis pas bien, j'ai mal à l'estomac », vite qu'elle vous fasse prendre Ubiq. Ubiq, en un clin d'œil, vous remet sur pied. Utilisé conformément au mode d'emploi, Ubiq soulage vos migraines et vos crampes d'estomac. Rappelez-vous, Ubiq est à portée de votre main. Évitez tout usage prolongé.
Sa période la plus brillante remonte au milieu des années 60, enfin à mon palmarès personnel. Je mettrai en tête des ouvrages comme le docteur Blood Money, comme le maître du haut château, comme Ubiq, pour lequel j'ai une tendresse particulière puisque je l'ai édité. Je crois que ce sont ses chefs-d'œuvre. Je classerai tout de suite après un livre très étrange comme nos amis de Frolic Suite, mais qui est paru sous un autre titre.
C'est Le Dieu venu du Centaure.
Le Dieu venu du Centaure, qui est un livre qui me paraît très extraordinaire et relativement sous-estimé.
On a présenté Dick comme étant quelqu'un d'assez mystificateur. Et curieusement, la mystification propre au personnage s'est étendue à ses traducteurs, puisque l'exemple type, c'est Marcel Tahan, qui en est venu dans son travail de traduction à glisser des pièges dans sa traduction pour coincer le lecteur. Donc c'est quand même pas anodin que l'œuvre de Dick engendre ce genre de choses. On a également l'exemple d'une nouvelle intitulée « Le père truqué », dont la fin avait été légèrement modifiée. Enfin, c'est quand même très particulier.
En ce qui concerne le père truqué, je crois qu'il faut remettre cette modification légère, une phrase avait été ajoutée à la fin, dans son contexte. Le père truqué est paru dans un des premiers numéros de fiction, enfin en tout cas un des 30 premiers numéros de fiction, et c'était une époque où l'éditeur considérait à tort ou à raison que la science-fiction était encore un genre très mal acclimaté en France, et qu'il était nécessaire de donner aux lecteurs français les moyens de s'y retrouver. Alors la chute originelle du père truqué était un peu abrupte, et l'éditeur avait jugé bon de rajouter une phrase pour relancer l'affaire et mettre les points sur les i. Les modifications, par contre, apportées à la traduction de nouvelles de Dick par Marcel Tahan sont évidemment quelque chose de plus étrange. On pourrait citer aussi les interprétations assez libres que Alain de Rémieux a faites dans sa traduction de Ubik à propos de petits textes étranges qui parsèment Ubik et qui, à vrai dire, étaient très difficiles à rendre. En fait, de Rémieux a écrit des petits textes largement originaux. Mais enfin, ça passe très bien dans le roman. Mais il y a d'autres exemples, et ces exemples sont intéressants. Le plus fameux, c'est Franz Kafka, dont les traductions initiales n'avaient que très peu à voir avec les originaux, même si c'était des traductions de très grande qualité. Comme vous savez, le coupable était Alexandre Vialat, lui-même excellent écrivain. Et donc Kafka dit que nous sommes bien dans un univers imaginaire.
Alors c'est vrai que Philippe K. Dick a commencé comme un écrivain de science-fiction très classique et que très très vite ça a dérapé. C'est vrai que les personnages dickiens sont des personnages très particuliers. Bon, on a souvent employé le terme d'anti-héros. C'est vrai que maintenant c'est un terme qu'on utilise très fréquemment. Et dans le cas des personnages dickiens, les personnages peuvent être effectivement qualifiés d'anti-héros. Le moins qu'on puisse dire, c'est que dans le travail d'écriture de Philippe K. Dick, on ressent à la fois une certaine empathie avec ces personnages et en même temps un clivage qui fait que l'auteur reste toujours en deçà et qu'il y a en même temps cette espèce de phénomène de rejet une fois que le personnage est sorti de lui.
Ce qu'on peut dire, c'est que Dick maltraite souvent, très profondément, à ses personnages. Je repense au héros de Ubik, par exemple, et on peut vraiment dire que dans une scène célèbre, celle où ce malheureux héros tente de gravir un escalier pour atteindre l'étage supérieur où il trouvera peut-être la bombe Ubik qui lui permettra de se retrouver dans la réalité, Dick fait subir un véritable calvaire à ce personnage. Et c'est quelque chose qui arrive très fréquemment au personnage de Dick. Mais je crois qu'il y a il y a un comportement un peu sadique, enfin, de Dick écrivain vis-à-vis de ses personnages. Et plus spécialement dans des scènes qui reviennent très régulièrement et qui sont des scènes de poursuite ou de fuite. Et parfois de fuite inconsciente. Par exemple, dans The Man Who Jabbed, qui doit reparaître au livre de poche sous le titre Le Profanateur, le héros sait qu'il a fait quelque chose dans la nuit, et quelque chose de tout à fait scandaleux, mais il ne sait pas quoi. Il le sait simplement parce que ses vêtements sont sales, déchirés, tachés de peinture de surcroît, mais il ne sait pas ce qu'il a fait, et ça l'inquiète terriblement. Ben ça, c'est une scène qui, d'une manière ou d'une autre, revient très fréquemment dans l'œuvre de Dick. Un vagabondage nocturne et inquiétant.
Have you ever retired a human by mistake? But in your position, that is a risk.
Is this to be an empathy test? Capillary dilation of the so-called blush response? Fluctuation of the pupil? Involuntary dilation of the iris?
We call it Voight-Kampff for short.
Mr. Deckard, Dr. Eldon Terrell.
Demonstrate it. I want to see it work.
Where's the subject?
I want to see it work on a person. I want to see a negative before I provide you with a positive.
What's that going to prove?
De nombreux cinéastes ont envisagé d'adapter des ouvrages de Dick pour le cinéma. Le premier à l'avoir fait fut Ridley Scott, qui porta à l'écran une version très simplifiée du livre « Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques » sous le titre « Blade Runner ». L'univers dickien s'y retrouve dans ses grandes lignes, puisqu'il s'agit pour les personnages principaux de définir l'humain. Ancien flic chargé de traquer des réplicants, robots ultra-perfectionnés qui ignorent eux-mêmes qu'ils ne sont que des machines, Harrison Ford choisira délibérément le monde de l'illusion en tombant amoureux de l'androïde qu'il devait tester et éliminer.
Do you mind if I smoke?
It won't affect the test. All right, I'm going to ask you a series of questions. Just relax and answer them as simply as you can. It's your birthday. Someone gives you a calfskin wallet.
I wouldn't accept it. Also, I'd report the person who gave it to me to the police.
You've got a little boy. He shows you his butterfly collection, plus the killing jar.
Un autre point qui revient fréquemment, c'est le cas classique du personnage qui va se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Alors ça, c'est quelque chose qu'on retrouve fréquemment dans la littérature, mais chez Dick, ça prend tout de suite des proportions considérables. Alors ensuite, ce qu'il advient de ces personnages, donc personnages qui découvrent une mystification alors qu'ils ne devraient pas la découvrir, ce qu'il advient de ces personnages, ça dépend un petit peu de l'humeur de Dick. Soit ça se passe bien, soit ça se passe très mal.
C'est un thème qu'on va retrouver dans énormément de romans et d'œuvres de Dick. Je pensais en particulier à Glissement de temps sur Mars, où la réalité se déglingue enfin progressivement, et si mes souvenirs sont bons, sans appel. Enfin.
Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui se produit fréquemment. Et puis, on en aboutit, parce que c'est Philip K. Dick, à des situations encore plus perverses, où la mystification peut être engendrée par le personnage lui-même. C'est le cas de l'agent de la brigade des stupéfiants de substances mortes, Fred, qui, pour des raisons d'enquête, va infiltrer le milieu des toxicomanes sous l'apparence d'un trafiquant de drogue, et qui va être victime progressivement de sa propre mystification et en venir aux limites de la psychose, à s'espionner lui-même, à ne pas se reconnaître et à enquêter sur lui-même. Là, on voit que la mystification peut déboucher sur la maladie mentale. Et je crois que c'est un petit peu la problématique de Philip K. Dick, qui lui-même a toujours été dans un état limite entre mystification et maladie mentale.
Le circuit principal de l'école continua de l'observer. Cette machine, il le savait, poursuivait sa rengaine selon les instructions d'une bande magnétique. Mais son fonctionnement pouvait être modifié à chaque niveau, en fonction du comportement de son assistance. Il ne s'agissait pas d'un système fermé, elle comparait les réponses des enfants avec ses propres bandes, puis elle les assortissait, les classait, et donnait finalement une réponse. Il n'y avait pas place pour une réponse tout à fait singulière parce que la machine éducative ne pouvait reconnaître qu'un nombre limité de catégories. Son avantage sur un professeur humain résidait dans sa capacité de s'occuper individuellement de chaque enfant. Une machine éducative pouvait enseigner à un millier d'élèves sans jamais en confondre deux. Les machines éducatives démontraient un état de fait dont Jacques Bollène était bien conscient. Il y avait une étonnante profondeur dans ce qu'on appelait artificielle. Malgré tout, les machines éducatives le dégoûtaient, car l'école communale tout entière allait dans une direction contraire à ses aspirations. L'école n'était pas là pour informer, ni pour éduquer, mais pour modeler les enfants, et d'une manière sévèrement restrictive. Les élèves y étaient pliés. Le but était la perpétuation de la culture, et le moindre trait particulier qui pouvait pousser un enfant dans une autre direction devait être éliminé. Jack se rendit compte qu'il s'agissait d'un combat entre la psyché composite de l'école et les psychés individuelles des enfants, mais que la première détenait tous les atouts. Un élève qui ne répondait pas d'une manière adéquate était considéré comme autistique, c'est-à-dire orienté selon un facteur subjectif qui prenait la priorité sur sa compréhension de la réalité objective. Et un tel enfant finissait par être renvoyé de l'école. Après cela, il devait aller dans une toute autre sorte d'école conçue pour le rééduquer, le camp Ben Gourion. Il n'était plus possible de l'instruire, on ne pouvait plus le traiter que comme un malade. La schizophrénie était une maladie majeure qui frappait tôt ou tard presque toutes les familles. Elle caractérisait tout simplement une personne qui ne pouvait plus se conformer aux exigences implantées en elle par la société. La réalité que fuyait le schizophrène, ou plutôt à laquelle il ne s'adaptait jamais, était la réalité de la vie communautaire, de la vie dans une culture donnée, ayant des valeurs données. Il ne s'agissait pas de l'existence biologique, ni d'une quelconque forme de vie héréditaire, mais bien de la vie qu'on lui inculquait.
C'est vrai que là, c'est une situation un petit peu particulière, parce que là, il y a un véritable personnage psychotique qui fait partie des personnages principaux. Ce personnage, c'est un enfant autiste. Et cet enfant autiste va vivre pendant tout le roman une réalité différente de la réalité des autres.
Oui, mais c'est une vraie réalité différente, si je puis dire. Enfin, elle, pour autant qu'on puisse dire dans le roman, elle a une existence objective et on peut peut-être aller jusqu'à penser qu'elle est plus réelle que la réalité quotidienne, enfin que la réalité qui nous apparaît, bien qu'étant sur Mars, comme étant la plus proche de la nôtre. Je crois qu'on retrouve là aussi l'idée de mondes emboîtés les uns dans les autres et qui sont éventuellement emboîtés à l'infini, si bien qu'il n'y a plus de moyen de dire lequel est le vrai. Alors là, je crois que c'est en partie ce qui explique l'insuccès relatif de Philip K. Dick aux États-Unis et son succès en Europe et en particulier en France. Il y a dans ses difficultés aux États-Unis le simple fait que c'est un homme qui n'a pas su gérer sa carrière, comme on dit. Mais il y avait aussi le fait que ce doute profond, enfin, sur le bon niveau du réel, devait heurter singulièrement les éditeurs et les lecteurs de science-fiction qui étaient d'accord pour travailler dans l'imaginaire et spéculer, mais à condition que ça se situe dans le prolongement du réel, et en particulier du réel scientifique ou pseudo-scientifique. Je crois qu'en France, d'abord, les phénomènes de carrière dont je parlais tout à l'heure n'ont pas joué. Les éditeurs se sont intéressés ou ne se sont pas intéressés à l'œuvre de Dick, et nous savons qu'ils s'y sont intéressés, qu'ils s'y sont intéressés très tôt. Mais d'autre part, ce doute sur la réalité, l'idée qu'il y en a d'autres ou qu'il y a une surréalité, correspondait bien à une tradition culturelle et à une tradition littéraire française qui était directement issue du surréalisme. Et alors je crois que pour un assez grand nombre de lecteurs, Dick a fait le pont entre une tradition qui était peut-être plus orientée vers le fantastique et celle plus proprement de la science-fiction.
So, what do you say?
I'm not so sure, and I don't get a souvenir.
Not true. For just a few more credits, we supply t-shirts, snapshots of you at the site, and even letters.
paru sous le titre original de Remember It For Your Old Cell, la nouvelle qui sert de base au scénario du film de Paul Verhoeven, Total Recall, est un exemple typique des univers emboîtés de Dick. Où est la réalité? Est-ce l'agent secret martien qui rêve qu'il est un vulgaire ouvrier terrien? Ou est-ce le terrien qui, au cours d'une bouffée de délire paranoïaque, se prend pour un agent secret? Qui rêve qui?
Le film Total Recall est fidèle partiellement à la nouvelle. Je dirais qu'il est fidèle à la nouvelle dans son début, et puis il s'en détache complètement par la suite, et ça vaut vraiment la peine de lire la nouvelle. Le héros n'est pas ce qu'il est, la réalité qui l'entoure, il le découvre très vite, n'est pas ce qu'il croit. Et ce qu'il découvre n'est pas vrai
forcément
non plus.
Ouais.
Enfin, la réalité, la personnalité même du héros ressemble à un oignon. Chaque fois qu'il retire une couche en espérant atteindre le fond vrai, il y a une autre couche à détacher et ainsi de suite. Ce qu'il y a de remarquable dans la nouvelle, je vois mal ce qu'on peut en dire de plus, c'est qu'elle... elle développe une structure complètement paranoïaque. Seulement elle la développe si parfaitement que ce n'est pas un personnage paranoïaque qui se déplace dans le monde, c'est l'univers entier qui obéit à sa fiction paranoïde. C'est quelque chose de tout à fait extraordinaire, un véritable cas d'école. Il y a des scènes tout à fait extraordinaires qui me semblent beaucoup plus proches de l'esthétique dickienne que n'était par exemple le film Blade Runner.
Mes cheveux sont secs et cassants. Ils sont incoiffables. En pareil cas, que peut faire une femme? C'est très simple. Appliquez-leur la crème ubique revitalisante. En 5 jours, votre chevelure redeviendra soyeuse et robuste. Et pour vous coiffer, la laque ubique, utilisée selon le mode d'emploi, est absolument sans danger.
Souvent, on a affaire à des univers où le pouvoir qui est en place n'est pas le pouvoir réel, ce sont des simulacres de pouvoir, et en fait, le pouvoir est détenu par des grands groupes, par des cartels. Ça, c'est une des préoccupations majeures de Philip K. Dick.
Oui, ça, c'est clair dès son premier roman, donc, qui est Loterie solaire, et où il décrit une espèce de société néo-féodale. Alors, je pense, il va par la suite décrire très souvent, c'est le cas par exemple dans Ubique, un monde dominé par des grandes corporations, enfin des grandes sociétés transnationales, qui portent parfois d'ailleurs des noms allemands, enfin, ou qui sont logés en Suisse, ou enfin qui ont des prolongements planétaires. Je crois que c'est un thème qu'on retrouve dans un assez grand nombre d'œuvres de science-fiction de cette époque, et puis qui a été complètement vérifié par l'évolution sociale et politique réelle. Nous vivons dans un monde où les États vacillent, mais où les grandes sociétés transnationales se portent très bien et ne font que s'étendre à coup de fusion, de délocalisation, enfin, et de création de nouvelles branches. Ce qui me paraît remarquable, c'est que Dick a, dès les années 60, donc peut-être même dès la fin des années 50, très bien senti certains aspects de cet univers, et en particulier la commercialisation forcenée de tous les domaines de l'existence. Il y a au début de Ubique une scène extraordinaire où le personnage n'arrive pas à ouvrir sa porte pour faire entrer quelqu'un parce qu'il n'a pas la pièce de monnaie glissée dans la serrure. Je crois qu'une des raisons de la survie longue déjà, et je crois destinée à durer encore très longtemps, de l'œuvre de Dick, ce n'est pas tellement son caractère prophétique. Les écrivains de science-fiction ne sont pas du tout des prophètes, mais c'est son attention à des petits détails de la vie quotidienne et la justesse avec laquelle il a vu leur évolution à partir de la société américaine dans laquelle il vivait.
Oui, l'ASF est une forme d'expression artistique contestataire. Il est indispensable que ces auteurs et ces lecteurs aient mauvais esprit. Que ce soit des gens qui se demandent pourquoi, comment, ou encore qui c'est. Cela se trouve sublimé dans certains thèmes de mes écrits, comme par exemple « L'univers est-il réel ?» ou encore « Sommes-nous tous réellement des humains ?» ou « Certains d'entre nous ne sont-ils que des machines ayant des réflexes conditionnés ?» J'ai en moi un fort potentiel de colère. Il en a toujours été ainsi. La semaine dernière, mon médecin m'a appris que ma tension est à nouveau élevée et qu'il semblerait y avoir à présent des complications cardiaques. Cela m'a rendu fou furieux. La mort me rend furieux, comme la souffrance humaine ou animale. Chaque fois qu'un de mes chats meurt, je maudis Dieu et je m'emporte contre lui pour de bon. J'aimerais pouvoir l'avoir en ma présence et avoir une bonne explication avec lui, lui dire ce que je pense, que le monde est bousillé, que l'homme n'a pas commis de péché originel ayant provoqué sa chute, mais qu'il a été poussé, ce qui est déjà suffisamment grave, et qu'on lui a ensuite fait avaler le mensonge selon lequel il serait à la base une créature pécheresse, alors que je sais parfaitement que ce n'est pas le cas. J'ai connu des gens de toutes sortes. J'aurai 50 ans dans un mois et cela me met en rage. J'ai déjà vécu longtemps. Et ils étaient dans l'ensemble des êtres bons. C'est sur eux que je calque les personnages de mes romans et de mes nouvelles. De temps à autre, une de ces personnes meurt et cela me rend furieux, vraiment furieux, aussi furieux que je puisse être. Je voudrais dire à Dieu, tu m'as pris mon chat et maintenant tu me prends mon ami. Que fais-tu ? Écoute-moi, écoute, ce que tu fais est mal.
Un autre point qui est caractéristique aussi des œuvres de Philippe K. Dick, c'est les problèmes, j'allais dire, d'intégrité corporelle, qu'ils s'expriment sous la forme de dégradation physique ou qu'ils s'expriment sous la forme de mutation. Bon, ça c'est un trait fréquent dans la science-fiction, mais chez Dick, ça prend des résonances particulières.
Oui, et puis surtout, dans la plupart des autres œuvres de science-fiction, il y a une justification externe, tandis qu'ici, elle est presque complètement absente. Hein, il est souvent fait allusion à des radiations, à une guerre nucléaire ou à des choses de ce genre, mais on voit bien que c'est pas là que s'établit la relation de nécessité. Le mutant, enfin, ou le personnage monstrueux, à sa nécessité propre. Je dirais qu'il est préexistant à la cause qui le fait théoriquement exister dans le roman. Là, je crois que Dick introduit très délibérément, enfin très consciemment, une idée qui est que le personnage différent, enfin, et le malade mental, est tout de même, et même essentiellement, une personne humaine, et peut-être une personne humaine qui a quelque chose d'essentiel à apporter.
À la fin de sa vie, Dick a écrit trois ouvrages regroupés sous le titre de trilogie divine. Siva, l'invasion divine, et la transmigration de Timothy Archer. Ces trois livres sont le fruit des incessantes interrogations philosophiques de Philippe K. Dick à propos de ce qu'est la réalité et du sens à donner à notre vie. En filigrane de ses ouvrages, derrière l'aspect austère du discours théologique qui à l'époque effraya beaucoup de ses lecteurs, transparaissent une grande sincérité et un respect profond de ses amis qu'il intègre dans ses livres comme des personnages romanesques, à l'exemple de l'évêque Pike, qui dans le dernier livre de Dick deviendra l'évêque Archer. Dick se met également en scène par l'intermédiaire de deux personnages, lui-même en tant que Dick, auteur de science-fiction, et son alter ego délirant, Horselover Fat. Ce clivage lui permettant d'explorer en tous sens chaque nouvelle idée. Mais la mystification ne réside pas dans cet artifice littéraire destiné à porter un raisonnement philosophique, mais plutôt dans le soi-disant délire mystique de Dick. Dans ses ouvrages, Dick, ou plutôt Horselover Fat, est en communication directe avec une entité divine qui lui révèle que la réalité n'est pas la réalité, que Dieu n'est pas Dieu et que Jésus n'est qu'un imposteur. Les réactions à la parution de ces ouvrages furent très véhémentes et nombreuses furent les polémiques, bien que les lecteurs ayant pris ce qui était romanesque pour une série d'assertions dont Dick nous aurait soudain gratifié sans tenir compte de son travail d'écrivain. Avec le recul, nous nous proposons de revoir le problème avec Jacques Chambon, éditeur français de la trilogie divine chez De Noël.
Le mysticisme n'a jamais été étranger à Dick dès le départ, finalement. Dès le départ, il y a une grande préoccupation au cœur de l'œuvre de Dick, qui est le problème du mal, tout simplement. Et le mal qui prend différentes formes, ça peut être le mal métaphysique, mais ça peut être le mal de l'enfant qui naît anormal, ça peut être le mal politique, ça peut être le mal médiatique. Et d'une certaine manière, on s'aperçoit que en filigrane des textes de Dick, que ce soit d'ailleurs dans les nouvelles comme dans les romans, il y a toujours cette préoccupation qui est présente. Et quand on replace un petit peu la trilogie dans cette lignée, on s'aperçoit au fond qu'elle est l'aboutissement d'un courant qui était en filigrane depuis très très longtemps, on pourrait presque dire depuis le début. Alors maintenant, pour ce qui concerne le thème de la mystification, là encore, il y a toujours deux choses qui fonctionnent parallèlement. C'est que, d'une part, le thème de la mystification a toujours fasciné Dick comme philosophe, en quelque sorte, et d'autre part, il s'est toujours amusé lui-même à mystifier. C'est-à-dire, au fond, il y a des espèces de mises en abîme là qui sont aussi caractéristiques de cet univers piégé. Et au bout du compte, la grande question qui est posée, c'est une question, au fond, sur la fragilité de la réalité, sur le fait, au fond, que la réalité est toujours une question de point de vue, de subjectivité, de façon dont on regarde les choses. Et il n'y avait rien qui plaisait autant à Dick, on le sait maintenant, à travers des témoignages, des interviews, etc., que de prendre une idée, de défendre sur cette idée le point de vue A, et puis ensuite de défendre le point de vue B qui était contraire, précisément pour la triturer et pour qu'au bout du compte n'existe pas une certitude, mais une interrogation et presque une inquiétude. Et je crois qu'il a abordé, au fond, cette expérience mystique qu'il a eue et qui, je crois, a été réelle. Il s'est passé quelque chose, effectivement, dans la vie de Dick. Est-ce que c'était une communication effective avec, je ne sais pas moi, une entité galactique, avec Dieu, enfin avec quelqu'un qui était censé s'occuper de lui et censé lui communiquer des messages. Et en tout cas, il a pris cette idée pour la triturer un petit peu de la même façon qu'il aimait bien triturer ses problèmes philosophiques.
Notre situation, la situation humaine, n'est en dernière analyse ni sinistre ni pleine de signification, mais simplement comique. Quel autre qualificatif pourrait-on lui donner? Les hommes les plus sages sont les clowns, comme Harpo Marx, qui refusait de parler. J'aimerais que Dieu puisse entendre ce que Harpo ne disait pas, et qu'il comprenne la raison du mutisme de cet homme. N'oublions pas que Harpo n'était pas muet et qu'il aurait pu parler. Il ne le voulait pas, tout simplement. Peut-être n'avait-il rien à dire, tout ayant déjà été exprimé. Ou peut-être, s'il avait parlé, aurait-il attiré l'attention sur quelque chose de trop épouvantable, quelque chose dont nous ne devons pas prendre conscience. Je ne sais pas. Peut-être pourrez-vous me l'apprendre.
Élixir du Bic restaure la virilité perdue, bannit les vapeurs de tout ordre et guérit les maladies secrètes chez l'homme et chez la femme. Action bienfaisante garantie si l'on se conforme assidûment aux indications.
On a toujours catalogué la paranoïa parmi les maladies mentales. Mais ce n'en est pas une. Il n'y a pas de perte de contact avec la réalité. Au contraire, le paranoïde est en rapport direct avec la réalité. C'est un empiriste parfait. Échappant à l'emprise des inhibitions éthiques et culturo-morales, le paranoïde voit les choses telles qu'elles sont vraiment. C'est en réalité le seul homme sain d'esprit.
Il y a une chose encore qui me frappe, surtout avec le recul, puisqu'on parle maintenant de Dick avec le recul, c'est que Dick a compris un tas de choses, finalement. Il a compris un tas de choses. Il a été un des premiers, finalement, à repérer à quel point, par exemple, l'univers médiatique transformait notre vision de la réalité, à quel point, finalement, on était dans un univers où la réalité étant perpétuellement médiatisée, elle apparaît déjà toujours comme suspecte, etc. Et à l'époque, finalement, on n'en parlait pas tellement de tout cela. Très curieusement, en France, il y a à peu près à la même époque, enfin peut-être un petit peu plus tardivement, mais à peu près à la même époque, moi je ne connais personnellement qu'un seul écrivain qui ait abordé ce même problème, c'est-à-dire précisément la question des vessies qu'on fait prendre pour des lanternes aux gens, c'est Barthes. Barthes à travers Mythologie, où il montre très très bien comment toutes les informations qui nous sont données et qui, à un certain niveau, prétendent faire passer un message A, font en réalité passer un message B, et que la véritable réalité qu'on essaie de nous fourrer dans le crâne, on la dissimule sous une autre réalité. Et comment dire, Dick avait déjà pigé tout ça, quoi. Et ce qu'il y a de très intéressant, c'est que il en faisait la matière même de son œuvre romanesque. Et alors, en ce qui concerne la question, disons, du rapport avec précisément tout ce qui semble pour nous relever de l'irrationnel, c'est-à-dire précisément les visitations, les entités qui sont derrière tout cela et qui expliquent que l'univers dans lequel nous vivons n'est pas celui que l'on croit, qu'en fait c'est une sorte de préalable, de rite de passage vers un autre univers, etc. On est en plein dans les théories du New Age aussi, que Dick finalement avait, semble-t-il, commencé à flairer au début des années 80. Dick avait déjà prévu ce que j'appellerais tout le...
Toutes les interrogations métaphysiques.
Voilà, je dirais même toutes les psychoses, ou même toutes les névroses millénaristes, quoi, qui sont très caractéristiques de la fin de siècle, quoi, des années 90.
Dans une société ravagée par une guerre à la bombe à hydrogène, les jeunes femmes nubiles descendent jusqu'à un zoo futuriste et ont des rapports sexuels avec diverses formes de vie non humaine et contrefaites dans les cages. Dans ce récit particulier, une femme qui a été rafistolée à partir des corps abîmés de plusieurs femmes a des rapports avec une femelle extraterrestre à l'intérieur de cette cage. Et plus tard, la femme, grâce à la science du futur, conçoit. L'enfant naît, et elle et la femelle dans la cage se battent pour savoir qui l'aura. La jeune femme humaine l'emporte, et se précipite sur le rejeton pour le manger. Cheveux, dents, orteils et tout. Juste après avoir fini, elle s'aperçoit que le bébé est Dieu.
C'est vrai que Dieu lui-même, la notion de Dieu, en prend un sérieux coup dans l'aile, puisque Dieu lui-même est abusé. Il est persuadé d'être à l'origine d'une création parfaite, mais en fait, il ignore que lui-même est imparfait et qu'au-dessus, il y a un autre Dieu. Bon, c'est aussi, de la part de Dick, une espèce d'anticipation de la faillite des systèmes religieux qui peuvent exister actuellement et la possibilité, justement, de recherche, d'interrogation, pour savoir s'il n'y a pas autre chose derrière.
Oui, je crois aussi surtout peut-être une espèce de propédeutique vers la libération par l'humour, justement. C'est-à-dire que le problème de la mystification chez Dick, il est à la fois, disons, une aliénation, mais à la fois une libération, en quelque sorte. C'est-à-dire, au fond, en mystifiant le mystificateur, on se montre plus malin et plus drôle que lui, en quelque sorte. Et là, on retombe encore dans ce système des univers emboîtés, qui se renvoient les uns aux autres et qui finissent par brouiller complètement la réalité. On a l'impression que Siva, l'invasion divine, etc., tout ça est écrit
c'est lourd.
Très, très sérieux, très, très lourd. Mais justement, c'est peut-être la forme ultime de l'humour, quoi, que de parler sérieusement de quelque chose qu'après tout, Dick prenait certainement très au sérieux, mais avec une certaine distance, avec toute une part de jeu. Avec la transmigration de Timothy Archer, là, il y a plus justement d'humour, de délire, plus de fantaisie, j'ai l'impression.
Mais la mystification la plus importante du livre ne se situe pas là. Et curieusement, énormément de personnes sont passées complètement à côté de la mystification principale, qui est la création de la part de Philip K. Dick des textes adokites, textes qui seraient donc des textes des gnostiques et qui en fait n'ont jamais existé. Et Dick les balance dans son histoire en citant les références bibliographiques, en citant les traducteurs, en citant l'édition anglaise, au même titre que les textes de la bibliothèque des Qumrans et toute une série de textes véridiques, et ça a complètement échappé au lecteur moyen. Alors qu'en fait, c'est le suprême de la mystification.
Bien sûr, c'est-à-dire que Dick n'a fait ici, à mon avis, que pourtant c'est assez clair, que prolonger une démarche qui est celle de Borges, quoi.
Tout à fait.
C'est-à-dire précisément mêler à la fois la référence effective, réelle, fiable, avec une construction de référence, mais qui paraît aussi, qui paraît tellement solide, tellement consistante que, qu'on s'y laisse prendre. Et par là même, bon, il montre que n'importe qui peut fabriquer n'importe quoi, au fond, c'est ça. C'est ça qui me semble le plus intéressant. Parce que précisément, là encore, si on le rattache bon, à certaines recherches, bon, je pense en particulier, bon, je parlais de Barthes tout à l'heure, bon, il y a quelqu'un qui se situe aussi dans la ligne de Barthes, qui d'ailleurs travaillait avec lui à une période, c'est Umberto Eco finalement.
Oui, bien sûr. Hein,
dans La Guerre du Faux, enfin, il y a beaucoup d'articles de Eco, notamment d'articles sur les médias, où il montre au fond que n'importe qui peut fabriquer n'importe quoi, que tout repose finalement sur une question de technique, une question, disons, de, enfin, une façon de fabriquer le message, de communiquer, etc., etc.
Il y a quand même quelque chose qui est caractéristique du dernier livre, donc de La Transmigration de Timothy Archer, c'est que premièrement, c'est le seul roman de Dick dont le personnage principal est une femme, ce qui est quand même assez révélateur, parce que les femmes sont un problème chez Dick, un problème énorme. Donc là, il a réussi à se projeté dans la peau d'un personnage féminin et qui se dégage malgré une détresse et un désespoir profond, parce que c'est vrai que le livre est émaillé de personnages qui décèdent. Malgré tout cela, il se dégage une grande sérénité et j'allais dire un optimisme et une absence d'angoisse qu'on ne retrouve pas dans les autres livres de Dick.
Oui, moi j'appellerais ça l'euphorie, quoi. Mais je crois que c'est tout simplement l'euphorie de quelqu'un qui se trouvait à une période de sa vie bon, où il était bien, où en particulier il commençait à être connu, son passage en France lui avait redonné une pêche extraordinaire parce qu'il voyait que ses livres étaient là, que ses livres étaient lus, que ses livres étaient appréciés, qu'ils étaient édités dans de belles collections, etc. Avec évidemment le feedback qu'il y a eu aux États-Unis, le fait qu'il commençait à être adapté au cinéma, voire Blade Runner, et ce n'était pas quand même n'importe quel film, grosse production, etc. etc. Enfin bref, il y avait comme une espèce d'équilibre qui était atteint.
Si je devais analyser la colère qui réside en moi et qui s'exprime par tant de sublimation, je supposerais que ce qui éveille mon indignation, c'est probablement de constater l'absence de signification de toute chose. Ce qui est chaos, la force de l'entropie. En ce qui me concerne, il n'existe aucune valeur rédemptrice dans quelque chose qui ne peut être compris. Je tente dans mes écrits de me servir de ma vie et tout ce que j'ai vu et fait pour façonner à partir de cela une œuvre qui acquiert finalement un sens. Je ne suis pas certain de parvenir à mes fins. Premièrement, je ne puis changer ce à quoi j'ai assisté. J'ai vu le désordre et le chagrin, et je dois coucher cela par écrit. J'ai également vu le courage et l'humour, et cela paraît également dans mes récits. Mais lorsqu'on effectue la somme de tout cela, qu'obtient-on? Quelle est la grande vision globale qui va donner un sens à l'ensemble? Ce qui m'aide, si quelque chose peut encore m'aider, c'est de découvrir que le germe du comique est toujours présent au cœur de l'horrible et du futile. Voici 5 ans que je me penche sur des questions théologiques fondamentales et solennelles pour mon roman en cours. Quoi qu'il en soit, j'ai commencé l'autre nuit la lecture d'un article sur la philosophie indienne. Et là, au cœur de cet article, je trouvais ceci. En appliquant la notion du rasoir d'Occam à la question épistémologique de savoir ce qu'est la réalité, les idéalistes bouddhistes arrivent à la conclusion que la croyance en un monde extérieur est une hypothèse superflue, c'est-à-dire qu'elle va à l'encontre du principe de parcimonie, base de toute la science occidentale. Ainsi, le monde extérieur est aboli, et nous pouvons nous occuper de choses plus importantes, quoi qu'elles puissent être. Cette nuit-là, je me suis couché en riant. J'ai ri durant 1 heure, et je ris encore. En poussant à l'extrême philosophie et théologie, et l'idéalisme bouddhiste est probablement l'extrême des deux, qu'obtenons-nous? Rien. Rien n'existe. Il est également prouvé que le moi n'existe pas, lui non plus. Ainsi que je l'ai déjà dit, il n'y a qu'une issue. Considérez en fin de compte que tout est comique. Kabir, que j'ai cité, a lui aussi trouvé une porte de sortie dans la danse, la joie et l'amour. Et il a parlé du son produit par les anneaux fixés aux pattes d'un insecte alors qu'il marche. J'aimerais pouvoir entendre ce son. Peut-être que, si j'en étais capable, mes colères, mes craintes et mon hypertension disparaîtraient.
Philip K. Dick est mort le 2 mars 1982 d'une hémorragie cérébrale consécutive à une hypertension chronique. Dans une de ses dernières lettres, il écrivait « Nous sommes bien dans la caverne de Platon. Le problème, c'est que les films qu'on nous passe sont pourris. » À travers donc toutes les époques depuis la parution de ces ouvrages, il y a eu, j'allais dire, une récupération par tous les mouvements des différentes époques. Je pense, bon, on a évoqué le phénomène du mouvement hippie avec le LSD. Il y a eu ensuite le côté désespéré, No Future, qui a été récupéré par une certaine frange des mouvements punk. Et maintenant, on voit que l'œuvre de Dick, particulièrement la fin de la trilogie, est récupérée par certaines théories du New Age.
Tout à fait. Pour employer un terme un peu pédant, enfin, bien que assez simple, enfin, encore qu'avec toutes ces couches, mais ces romans sont très polysémiques et des générations successives, littéralement, s'y sont retrouvées. Il y a encore d'autres interprétations qui viendront et à mesure que nous vivrons dans un monde de plus en plus truqué. Enfin, le père truqué a étendu son ombre sur la terre entière.
Est-ce que par hasard j'aurais mauvaise haleine, Tom? Si tu t'inquiètes, Ed, c'est bien simple. Et c'est le nouveau dentifrice Ubiq, à la puissante mousse germicide à l'action instantanée. Sans danger si l'on se conforme au mode d'emploi. Je suis Ubiq. Avant que l'univers soit, je suis. J'ai fait les soleils, j'ai fait les mondes, j'ai créé les êtres vivants et les lieux qu'ils habitent. Je les y ai transportés, je les y ai placés. Ils vont où je veux, ils font ce que je dis. Je suis le mot et mon nom n'est jamais prononcé, le nom qui n'est connu de personne. Je suis appelé Ubiq, mais ce n'est pas mon nom. Je suis, je serai toujours.
Philip K. Dick par Alexandrine Aliez, avec Gérard Klein et Jacques Chambon, éditeur français de Philip K. Dick, Jeff Wagner, journaliste, texte lu par Frédéric Lassègue et Alain Carazé, prise de son et mixage Éric Cujas et Josette Etier, réalisation Isabelle Huel.
C'était Une vie, une œuvre, une émission proposée par Martin Kénéen avec la complicité de Claire Poinsignon. Réécoute, podcast, commentaires, compléments sur franceculture.fr. La semaine prochaine, la réalité reprend ses droits car c'est la rentrée sur France Culture. Mais Une vie, une œuvre vous donne rendez-vous pour de nouvelles aventures le samedi à 16h.